Radio Prague, les informations.
Le Premier ministre tchèque soutient indirectement la France dans sa politique sur les Roms. Le chef de la diplomatie vietnamienne est en visite à Prague. Le gouvernement tchèque supprime le soutien au parc solaire. Présent à Bruxelles ce jeudi où il participe au sommet européen des 27, le Premier ministre tchèque Petr Nečas a indirectement soutenu la France dans sa politique d'expulsion des Roms bulgares et roumains. Le chef du gouvernement s'est dit convaincu que même un pays membre de l'Union européenne avait le droit, lorsqu'un citoyen d'un autre pays membre séjourne sur son territoire, d'exiger que celui-ci suive des études, travaille ou puisse prouver qu'il dispose de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins. Ce pays membre a le droit d'exiger que ses propres lois soient respectées, a déclaré Petr Nečas peu avant l'ouverture du sommet. La Commission européenne est préoccupée par la poursuite de l'application du régime de visa imposé aux Tchèques par le gouvernement canadien. C'est ce qu'a affirmé le président de la Commission, José Manuel Barroso, à l'issue de son entrevue avec Petr Nečas mercredi soir à Bruxelles. Le chef de la diplomatie vietnamienne Pham Nguyen Khiem a ouvert sa visite officielle en République tchèque. Ce jeudi, il a été reçu au château de Prague par le président de la République Václav Klaus. Vendredi, il aura des conversations avec son homologue tchèque Karel Schwarzenberg qui porteront notamment sur la coopération culturelle et économique entre les deux pays et sur la situation politique actuelle dans le monde. Cette année, 60 ans se sont écoulés depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la République tchèque et le Vietnam. Les parcs et champs solaires, aussi appelés centrales photovoltaïques, ensemble de panneaux solaires installés au sol sur plusieurs hectares, ne bénéficieront plus du soutien de l'État à partir de l'année prochaine. Le gouvernement a en effet approuvé un amendement à la loi sur le soutien aux sources d'énergie renouvelables. À l'issue de la réunion du gouvernement, le ministre de l'Industrie et du Commerce a justifié la décision du cabinet en expliquant que cet amendement devrait permettre de modérer l'augmentation des prix de l'électricité pour les consommateurs l'année prochaine. Quelques 3000 médecins ont signé la pétition intitulée « Merci, nous partons ». À travers cette campagne, lancée la semaine dernière, les médecins tchèques mécontents protestent contre le montant qu'ils jugent insuffisant de leurs salaires actuels, notamment pour ceux travaillant dans les hôpitaux. Ils réclament donc un salaire de base 1,5 à 3 fois supérieur au salaire moyen en République tchèque. Hradec Králové en Bohême de l'Est est la ville tchèque où la qualité de vie serait la meilleure, tel est le principal résultat d'une étude menée dans 50 villes du pays qui a été annoncée mercredi par la société Mastercard. Météo, c'est un temps variable qui marque la météo ce jeudi. Les nuages prédominent dans la moitié nord-ouest du pays. Quelques averses sont également entendues dans le sud de la Moravie. Les températures se situent autour de 20 degrés pour les maximales. C'était le journal présenté par Alena Gebertova. Notre programme se poursuit avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au cours de ce prochain quart d'heure d'actualité, nous vous proposerons tout d'abord un entretien en français, s'il vous plaît, avec l'ancien Premier ministre et ancien commissaire européen à l'emploi, Vladimir Špidla. Nous l'avons rencontré à l'occasion de la sortie de son livre qui raconte son mandat à Bruxelles. Les familles monoparentales, voilà un modèle de plus en plus répandu en Europe. En République tchèque, 25% des enfants vivent avec un seul de leurs parents. Plus de détails dans quelques instants. Informatique ensuite, Google s'est vu interdire de poursuivre sa collecte de photos pour son service de localisation Street View. Nous entendrons pourquoi avant de terminer sur une note sportive et de tennis. La République tchèque affronte la Serbie en demi-finale de la Coupe Davis ce week-end. Une rencontre qui, dans la chaude ambiance de Belgrade, s'annonce prometteuse. Très bonne écoute à toutes et à tous. L'ancien Premier ministre tchèque et ancien commissaire européen à l'emploi, aux affaires sociales et à l'égalité des chances, Vladimir Špidla, vient de publier un livre qui, avec légèreté, par des anecdotes et des réflexions, retrace les quelques années de son mandat à Bruxelles. Anna Kubiszta lui a demandé ce qui l'avait poussé à coucher sur le papier ses impressions.
Parce qu'il y avait des expériences qui étaient assez intéressantes. Et me semble-t-il qu'en République tchèque, la discussion sur l'Union européenne est assez sèche, et sans humeur. Alors j'essayais un peu de changer la situation.
Alors ça, c'est avec un livre, mais comme maintenant vous êtes rentré de votre mandat et que vous êtes en République tchèque, j'allais dire, dans notre action politique, comment est-ce que vous vous entendez continuer finalement votre travail entamé à Bruxelles pour que justement les Tchèques, soient, qui sont souvent perçus comme assez eurosceptiques, voient l'Union européenne autrement?
Oui, naturellement, c'est la base de mon action politique actuelle. Je participe au sein de sociodémocrates en tant que ministère pour les affaires sociales, pour les affaires européennes. Je suis actif dans les élections sénatoriales en Tchéquie. En tout niveau, j'essaye d'être actif et naturellement développer la vraie idée européenne aussi au sein de la République tchèque.
Pourquoi pensez-vous que les Tchèques, justement, sont un peu rétifs à Bruxelles? Comment est-ce que vous expliquez cela? C'est une méconnaissance?
Naturellement, pour le peuple, c'est ce manque de connaissances, c'est vrai. Parce que malheureusement, le journalisme tchèque est assez serré, assez focusé sur le territoire tchèque, avec très peu d'intérêt en dehors. C'est un problème. Naturellement, il y avait aussi des problèmes de langue. Je pense que des choses ont déjà changé beaucoup, mais à vrai dire, ça reste un peu. Et naturellement, le courant politique de droite est assez réticent. Alors je pense que ce mélange des raisons a sa propre influence, mais en général, les Tchèques ne sont pas tellement eurosceptiques. Si vous allez en profondeur, vous voyez que ce n'est pas tellement si mal. C'est plutôt mieux, c'est plutôt un peu plus que la moyenne positive.
Vous avez été commissaire européen de 2004 à 2010, jusqu'à février 2010. Est-ce qu'il y a des choses finalement aujourd'hui, maintenant, que vous regrettez, par exemple, de ne pas avoir pu terminer?
Ah, naturellement, on regrette beaucoup de choses parce que j'ai, par exemple, ouvert l'année européenne de la lutte contre la pauvreté. Et je vois qu'on a progressé, mais naturellement, j'ai beaucoup d'idées encore comment approfondir l'action politique, etc. Aussi, j'ai commencé à ouvrir certains élargissements de concepts non-discrimination. Oui, c'était aussi très important pour moi et je regrette n'être pas là. Oui, c'est ça. Aussi, par exemple, les négociations avec les Serbies et les Balkans occidentaux, je pourrais dire que j'avais certaines influences. Je pourrais dire que c'était peut-être plutôt l'influence positive parce que j'ai des connaissances culturelles et diplomatiques sur cette région. Alors ce sont des choses qui étaient tout à fait intéressantes et il me manque naturellement.
Dans les futures renégociations du budget, certains pays veulent baisser le budget, en tout cas la France notamment. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit justement la partie sociale de l'Union européenne qui en pâtisse?
C'est un vrai danger. C'est un vrai danger. Ce serait une erreur de côté de la France. Mais naturellement, la politique est parfois très compliquée. Mais j'espère qu'on va trouver des solutions solides et plus fortes qu'on pense aujourd'hui.
Juste une dernière question, puisqu'on parle de la France et que l'actualité est assez forte à ce niveau-là. La Commission va probablement entamer une procédure de sanction contre la France à cause des expulsions de Roms. Quelle est votre position sur cette question?
Regardez, j'ai entamé le processus d'infraction par rapport à l'Italie. C'était la chose pareille. Je pense qu'en France, on utilise cette mesure sans la individualiser. Et c'est mauvais. Alors, je ne connais pas naturellement des détails de processus, des preuves et la situation exacte. Mais en général, si on n'utilise pas le système individuel et on utilise les moyens collectifs, c'est mauvais.
Donc c'est une bonne chose si cette procédure en infraction aboutit.
Ah oui, je suis d'accord.
Les familles monoparentales représentent plus de 15% des ménages européens et leur nombre ne cesse de s'accroître. En République tchèque, un enfant sur quatre ne vit qu'avec un seul de ses parents, le plus souvent avec sa mère, c'est-à-dire dans 90% des cas, fait alarmant. Près de la moitié de ces familles tchèques incomplètes sont menacées de pauvreté. L'association civique Aperio, une des rares structures qui offre aux parents solo une assistance psychologique, juridique et en matière d'emploi, a présenté ses projets à Prague dans le cadre de l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Magda Rozinkova.
Parents divorcés ou séparés, veuves et veuves, celles et ceux qui ont pris la décision d'élever leurs enfants seuls. Avoir un travail est pour eux une nécessité, car en République tchèque, un bas niveau de vie, voire la pauvreté, touche 40% des familles à parents uniques, la moyenne européenne étant de 35%. Selon Halka Jaklova de l'association Aperio, ces parents isolés rencontrent sur le marché du travail tchèque les mêmes problèmes que les parents de familles nucléaires.
Ce qui manque en République tchèque, ce sont des emplois aux horaires flexibles, des postes à temps partiel, la possibilité de travailler à domicile. Les mères qui veulent reprendre le travail après leur congé maternité font souvent l'objet de discriminations de la part des employeurs. Ces derniers privilégient les candidats sans enfants lors des entretiens d'embauche. On leur pose des questions personnelles sur la garde de leurs enfants en cas de maladie.
L'État tchèque fait plutôt exception en Europe. Il ne développe pour l'instant aucune politique sociale en faveur des parents solos, son aide aux familles monoparentales se limitant à des allocations sociales minimales. La société Aperio lance alors un filet de sécurité. Sur son site internet, les parents en quête d'un emploi et ceux qui veulent lancer une entreprise se font conseiller dans différents domaines. Ils peuvent suivre des conférences en ligne ou encore prendre part à des séminaires de 2 jours organisés à Prague, gratuitement et avec garde d'enfants, des séminaires animés par des spécialistes de l'emploi, du droit et des psychologues. L'assistance psychologique est importante, comme l'explique Veronika Brodská, psychologue et animatrice des cours d'Aperio.
Les parents solos ont un vif sentiment d'échec. Ils se sentent coupables de ne pas élever leurs enfants dans une famille complète. Ce sentiment les défavorise énormément en tant que candidats à des postes de travail. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils ont peur de communiquer. Ils ont peur des exigences du travail. Ils pensent qu'ils n'arriveront pas à concilier travail et famille.
Hanna Mesteková est une maman solo. Elle a pris part au séminaire qui s'était déroulé le week-end dernier au centre de loisirs Tolcův Dvůr à Prague. Rien que le fait de rencontrer, grâce à ce séminaire, d'autres jeunes mères qui étaient dans la même situation que moi, cela m'a beaucoup aidée. Nous avons appris à écrire un CV, à réussir un entretien d'embauche, à appliquer les règles de la communication. Ce que j'ai très apprécié, c'était la possibilité d'élaborer avec les spécialistes un plan individuel pour chacune d'entre nous et de s'entretenir de nos problèmes personnels avec une juriste et une psychologue. Deux conférences en ligne sur la problématique de l'emploi des parents solos auront lieu sur le site de l'Aperio en octobre et en novembre. À savoir que les familles monoparentales tchèques sont confrontées à bien d'autres problèmes encore, parmi eux un manque de place en crèche et dans les écoles maternelles.
On passe à l'informatique. L'autorité tchèque de protection des données personnelles a interdit mardi à Google de poursuivre la collecte de photos pour son service de localisation appelé Street View. Plus de détails avec Marek Kubišta.
Les voitures Google en République tchèque vont devoir rester au garage. Après avoir essuyé un premier refus en décembre dernier, l'autorité tchèque de protection des données personnelles a à nouveau contraint l'entreprise américaine de suspendre sa collecte de photos pour son service de localisation Street View. L'autorité de régulation affirme ne pas avoir reçu suffisamment de garanties quant au traitement des données collectées. Elle a cependant précisé que les discussions étaient toujours en cours avec l'entreprise et qu'elle expliquerait cette décision lors d'une conférence de presse le 22 septembre prochain. Une procédure administrative avait été lancée en avril lorsqu'il avait été révélé que les voitures Google collectaient des données personnelles des réseaux Wi-Fi non sécurisés, collecte qui opérait depuis 2006 et que le géant américain n'a pas signalé aux autorités. Philippe Pospichil, expert en protection des données personnelles chez Juridicum Remedium, revient sur les dangers que pose cette collecte de données.
Les gens utilisent le réseau Wi-Fi pour envoyer régulièrement des emails, mais également pour effectuer des opérations sensibles, comme par exemple des virements bancaires. Ces données sont évidemment très sensibles. Le gros problème a été causé par le fait que personne ne savait que Google collectait ces données, d'autant plus qu'on ne sait pas ce qu'ils ont l'intention d'en faire.
Si Google a déclaré que ces données avaient été enregistrées par erreur et qu'il comptait les détruire, différents États ont déjà pris les devants en lançant des enquêtes. Au printemps dernier, les autorités allemandes et la CNIL, en France, ont ouvert des enquêtes sur Street View. Les activités des voitures Google en France ont dans ce cadre été stoppées au cours de l'été, mais ont depuis repris du service. Mais Google n'en est pas à sa première polémique. L'entreprise a déjà subi par le passé de nombreuses critiques sur sa gestion des données personnelles, comme l'explique à nouveau Philippe Pospichil.
Ce n'est pas la première fois que Google s'immisce ainsi dans la vie privée. L'entreprise a déjà expliqué qu'elle ne considérait pas cela comme un problème. La question est maintenant de savoir si les pouvoirs publics et les forces de l'ordre vont réussir à lui faire respecter certaines règles.
Aujourd'hui, Google Street View est déjà disponible dans une grande partie de Prague et d'autres villes tchèques, dont Brno, Český Krumlov et Olomouc.
Est difficile, mais pas impossible. Telle sera la mission de l'équipe de République tchèque de tennis à Belgrade. La Serbie de Novak Djokovic y accueillera la République tchèque à partir de ce vendredi en demi-finale de la Coupe Davis. Absent au tour précédent contre le Chili, Tomáš Berdych et Radek Štěpánek, les deux meilleurs joueurs tchèques actuels, sont de retour et ils entendent bien se qualifier pour leur deuxième finale consécutive. Après deux victoires faciles lors des deux premiers tours en Belgique et au Chili contre deux équipes assurément parmi les plus faibles dans le groupe mondial cette année, c'est cette fois un obstacle d'un tout autre calibre que la République tchèque, de nouveau en déplacement, devra franchir si elle entend se qualifier. Dans la Belgrade Arena, conçue pour accueillir 17 000 personnes en configuration tennis, les Tchèques auront face à eux non seulement Novak Djokovic et trois autres joueurs talentueux, mais aussi un public chaud bouillant qui tentera de pousser la Serbie vers la première finale de Coupe Davis de son histoire. Malgré cette ambiance et la qualité de l'opposition, le président de la Fédération tchèque, Ivo Kaderka, reste confiant.
Je suis optimiste. Je pense également que nous avons toutes nos chances. Nous savons que c'est un peu l'enfer, comme j'ai entendu dire, qui nous attend là-bas au niveau de l'ambiance. Mais qui veut être le meilleur doit être capable de gagner même en enfer. Et je suis persuadé que, comme l'année dernière, nous allons nous qualifier pour la finale de la Coupe Davis.
Sur le papier, c'est une demi-finale très indécise qui s'annonce. Les Tchèques peuvent certes compter sur Tomáš Berdych et Radek Štěpánek, dont la présence est indispensable pour espérer un bon résultat, mais les résultats des deux joueurs depuis le début de l'été, éliminés au premier tour de l'US Open, sont tout sauf la garantie d'une forme éclatante. Côté serbe, la principale interrogation concerne l'état de fraîcheur de Novak Djokovic. Le numéro 2 mondial n'est en effet arrivé à Belgrade que mercredi, deux jours après avoir disputé la finale de l'US Open. Il se dit toutefois prêt à tout donner et nul doute que le contexte particulier l'y aidera, ce dont ne doute pas Tomáš Berdych.
Je pense que tout le monde connaît les qualités de Djokovic. C'est un joueur qui sait tout faire et un formidable combattant. Selon moi, son arme principale est sans doute sa capacité à gagner des points sur le service de son adversaire. Il a un excellent retour. Il est toujours capable de remettre la balle dans le court et il ne vous donne aucun point gratuit.
Le tirage au sort de l'ordre des rencontres a été effectué jeudi midi. Le premier simple vendredi après-midi mettra donc aux prises Radek Štěpánek à Novak Djokovic et le second Tomáš Berdych, qui fêtera ses 25 ans, à Janko Tipsarevic, actuellement 37e mondial. Les Serbes, forts de la présence de Djokovic et du soutien de leur public, partiront légèrement favoris, mais les Tchèques, ces dernières années, ont souvent su se transcender lors des grandes occasions en Coupe Davis. Et cette demi-finale, très prometteuse, est assurément une de ces grandes occasions de raffole Berdych et Štěpánek. Voilà, c'est donc avec cette affiche prometteuse de tennis que se referment ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de bien vouloir rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
La comédienne du Théâtre National de Prague et vedette du cinéma des années 1930 à 1950, Ružena Naskova, n'était pas une grande beauté comme Zeta Kabatova, Lida Barova ou Adina Mandlova. Elle était très grande, plutôt charpentée, robuste et paraissait plus que son âge. Mais elle avait un port royal, beaucoup de charisme, des mœurs nobles et distinguées. Son physique imposant, non dépourvu de grâce, la prédestinait au rôle de grande dame, mère, grand-mère, tante. Elle avait incontestablement un grand talent dramatique et compte parmi les comédiennes et vedettes de cinéma les plus célèbres de son époque. Ružena Naskova, née le 28 novembre 1884 à Prague, dans une famille bourgeoise, était une jeune fille calme et bien élevée, préférant la solitude à la compagnie bruyante des enfants de son âge. Elle aimait les livres, la poésie, se retirait dans la nature, les parcs tranquilles et les jardins perdus, pour y lire ou réciter des poèmes. La jeune fille appréciait ces endroits isolés avec pour seul témoin le bruissement des feuilles, les arbres, les fleurs, les rivières, les ruisseaux, ou de vieilles statues portant les traces d'un temps depuis longtemps révolu. Elle se passionnait pour le théâtre depuis sa tendre enfance et rêvait d'en faire. Mais son père s'opposait catégoriquement à cette idée. Pourtant, Ružena était persuadée qu'un jour elle monterait sur scène. Ce n'est qu'après le décès de son père que son rêve commence à se réaliser. Elle prend des cours de théâtre chez Otilie Sklenářová, une grande comédienne de son époque, et joue en amateur dans les petits théâtres de Prague. Mais sa stature robuste pose parfois des problèmes au metteur en scène sur le choix des rôles qui lui conviendraient. C'est le cas en Slovénie. La jeune débutante envoie sa photo à un concours au théâtre de Ljubljana où l'on cherche une comédienne pour incarner les rôles de jeune fille naïve. Elle est choisie parmi les nombreuses candidates, mais lorsqu'elle passe l'audition, la direction du théâtre est très surprise par cette jeune fille immense. Finalement, grâce à son talent, elle décroche un engagement, mais on lui distribue des rôles qui ne conviennent absolument pas à son caractère. Pourtant, elle reste au théâtre de Ljubljana pendant 3 saisons. Pendant les vacances d'été, alors que le théâtre est fermé, elle joue sur les scènes de plus petits théâtres à Prague. En 1907, Ružena Naskova est engagée au Théâtre National de Prague. Elle en restera membre jusqu'en 1955, année où, pour des raisons de santé, elle prend sa retraite. La jeune débutante se fait remarquer dès son premier rôle, où elle interprète Marguerite dans le Faust de Goethe. Mais ce n'est que dans Madame sans gêne de Victorien Sardou et d'Émile Moreau que son talent dramatique est pleinement découvert. Au cours de sa carrière, elle a incarné un grand nombre de rôles importants, dramatiques et comiques, tels que la reine dans Hamlet, de William Shakespeare, Roxane dans Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, Miss Erlin dans L'éventail de Lady Widermeer d'Oscar Wilde et bien d'autres. Elle décroche son premier rôle au cinéma à l'âge de 31 ans, ce qui est relativement tard, dans A.H. Vert, un film réalisé par Jaroslav Kvapil. Même si elle joue très bien, ce n'est que 15 ans plus tard que les réalisateurs découvrent ses qualités et les rôles se mettent à pleuvoir. Après la guerre, elle ne joue plus que dans un seul film qu'elle ne peut terminer à cause d'une grave maladie. Mais la grande comédienne ne se retire pas complètement du monde de l'art. Elle profite de sa belle voix et de son don de remarquable narratrice pour travailler à la radio tchécoslovaque dans le cadre de différentes émissions. Elle récite des poèmes, lit les contes pour enfants et les œuvres des auteurs classiques tchèques. On sait peu que Ružena Naskova était également une parolière remarquable et rédigeait des articles pour différentes revues de théâtre. Dans les années 1940, elle publie un recueil sur sa sœur écrivain Helena Maliejova, tel est le cours de la vie, et la petite chronique. La grande comédienne décédée le 17 juin 1960 à Prague a remporté en 1931 le prix national et en 1947 elle a été nommée artiste nationale, ce qui était un titre prestigieux et d'honneur pour ses mérites dans le monde de l'art tchécoslovaque.
C'est déjà la fin pour aujourd'hui du programme Langue française de Radio Prague. Merci donc encore de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet. Pour cela, c'est très simple, c'est le www.radio.cz. Sinon, rendez-vous près de vos postes dès demain, même heure, même fréquence. À très bientôt donc. Ahoy.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.